Bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour l'Anglais des chiffres en cette fin d'après-midi du dimanche. L'Anglais des chiffres, vous le savez, c'est une émission en direct sur LCI. On reçoit chaque semaine un grand témoin de l'actualité avec lequel on parcourt les faits marquants. Cette semaine, nous recevons Philippe de Sertine. C'est un économiste reconnu, réputé. Il vient de publier « Le grand basculement », c'est chez Robert Laffont. Basculement après le Covid, vers le monde d'après. Tout change, la géopolitique, l'économie, la société. On explore ça dans un instant avec Philippe de Sertine en direct. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Anglais des chiffres comme tous les dimanches en direct sur LCI. Nous recevons une personnalité pour faire avec elle le tri des faits d'actualité et comprendre ce qui va rester, ce qui va durer, en quoi et comment le monde change. Cette semaine, c'est un économiste, il s'appelle Philippe de Sertine, bienvenue à vous.
Bonjour.
Vous êtes un économiste, notamment professeur à l'université de Paris-Sorbonne, vous êtes aussi le patron de l'Institut de Haute Finance et membre du conseil, du Haut Conseil des Finances Publiques qui surveille...
Ancien membre.
Ah
oui, j'ai fini mon mandat.
Donc conseil qui surveille bien sûr les finances publiques, vous connaissez très bien ces thématiques de la dette, vous avez écrit de nombreux livres et le dernier, il est sorti tout récemment, c'était le 6 mai, il s'appelle « Le grand basculement ». Il est publié chez Robert Laffont. Monde d'avant, monde d'après. Alors vous faites partie de ceux qui pensent que l'épidémie a vraiment changé les choses.
Oui. Je pense même, voyez, que Covid, c'est un peu tôt pour le dire, hein, mais Covid commence le 21e siècle. Vous voyez, le 20e siècle a commencé, voilà.
Avec 14-18, quoi.
Enfin, oui. On va dire 18 pour être optimiste. Ouais. Et ben, je pense que le 21e siècle commence avec la fin du Covid. Ça veut dire qu'on n'y est pas encore complètement, mais qu'on sent bien que les choses se sont incroyablement accélérées. Pour le coup, vous voyez la comparaison qu'avait eue Emmanuel Macron en disant « c'est une guerre », c'est un peu ça. Les guerres, c'est les moments d'accélération du temps, surtout à la fin, quand on en sort, évidemment. Hein. La guerre, c'est beau quand ça s'arrête. L'épidémie, c'est pareil, mais on voit bien que c'est extraordinaire à quel point les choses qui semblaient être compliquées à bouger, tout d'un coup, tout a bougé, partout.
Oui, alors on pourrait vous dire, bien sûr, ça a changé les choses, mais au fond, ça n'a apporté rien de neuf. C'est-à-dire que ce qui était là auparavant a été dramatisé, forcé, précipité, accéléré, mais tout était là avant. Vous évoquez dans votre livre, la révolution technologique, la révolution géopolitique, avec la lutte pour la domination mondiale, ça fait quelques années que c'était en germe.
Le grand changement, je crois que justement, c'est pas tellement sur ces grands éléments. Plutôt, ces grands éléments sont aussi un facteur d'accélération. Hein. Le techno, tout d'un coup, on se rend compte à quel point elle peut changer le monde. On l'utilisait, hein, si vous voyez, on utilisait le téléphone pour regarder sa météo. Tout d'un coup, on va l'utiliser véritablement pour travailler. Mais je crois que ce qui a changé fondamentalement, c'est que la population, tout d'un coup, a vu, un arrêt de l'économie. Ça, c'était quelque chose que, vous voyez, en économie, on théorisait là-dessus. Si on arrêtait, qu'est-ce qui va se passer? Là, on l'a vu, on l'avait jamais vu dans l'histoire.
Oui.
Et on a vu en même temps la population, les gens, les vrais gens, qui ont inventé une autre façon de fonctionner. Et là, vous voyez, ça, c'était le grand, grand, grand enjeu au début de l'année 2020. Il faut qu'on invente une nouvelle façon de fonctionner.
Oui, vous dites ça dans votre livre, vous dites d'ailleurs, avec pas mal d'optimisme, au fond, les gens se sont pris en main et ils sont en train d'inventer un nouveau modèle. Est-ce que vous n'allez pas un peu loin? C'est-à-dire que, est-ce que, justement, la cause cessant, ces effets ne vont pas cesser avec elle?
Eh bien, écoutez, quand on est en train de regarder ce qui se passe, pour de vrai, on pouvait le penser. Je pense que si on avait eu probablement un confinement qui s'arrêtait au mois de juillet 2020 et qu'ensuite on repartait, on aurait peut-être eu effectivement juste une parenthèse comme ça qui n'aurait pas duré si longtemps et on serait reparti ensuite dans un mode de fonctionnement comparable au précédent. Là, les confinements successifs ont fait que les choses ont été différentes. Mais je crois toujours pareil, on n'a pas le choix, il faut qu'on change. Aujourd'hui, on est le jour de la marche pour le climat.
Oui.
Quand vous êtes sur le jour pour la marche pour le climat, on entend quoi? On entend des gens qui sont désespérés en disant « ça change pas assez ». On sait bien qu'il faut changer de modèle. Pendant des années et les derniers mois avant Covid, on avait une jeunesse angoissée qui était portée par une petite jeune Suédoise.
Greta Thunberg,
qui était la porte-parole de sa génération, qui disait, qui d'ailleurs, on sentait son angoisse, qui est l'angoisse de toute la génération. Tous les parents d'adolescents voient très bien ce que je veux dire, en disant, mais il se passe rien, il n'y a rien qui change. Et là, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Alors, est-ce que c'est entièrement bon pour le climat? Là, probablement, il faudra réfléchir plus longtemps. Mais il s'est passé quelque chose parce que là, tout d'un coup, on a vu que, un, on pouvait arrêter, deux, qu'on pouvait fonctionner différemment. Mais là où vous dites, oui, mais au fond, est-ce qu'on va pas repartir comme avant? Non, les gens sont en train de dire « Non, je ne vais pas fonctionner comme avant ». Et je dirais même, ils sont en train de commencer à dire « Je déménage ». Vous êtes dans la région parisienne. Et là, on est d'accord hein, que quand on évoque tout ça, c'est tout le monde qui commence à frissonner. Parce que quand on est en train de dire les mouvements de foule, on le sait bien en finance, hein, rien n'est pire qu'un run. C'est-à-dire les gens normaux qui tout d'un coup disent « j'enlève mon argent ». Parce que vous pouvez arrêter toutes les crises économiques ou financières, sauf quand ce sont les pieds des vrais gens qui disent « maintenant, je change ». Et bien là, c'est le sentiment qu'on commence à avoir. C'est que les gens disent « non, non, mais maintenant, j'ai compris, il va falloir fonctionner différemment ». Peut-être aussi, hein, parce qu'évidemment, quand je dis « Covid, c'est une chance », parce que Covid, c'est d'abord une tragédie. Et que tout d'un coup, la mort est revenue dans nos vies.
C'est vrai.
Tout d'un coup, la menace, la notion de risque, c'est devenu quelque chose de très concret. On a une science incroyable qui évolue, et en même temps, on a une science qui doit être humble, modeste, parce qu'on dit, ben oui, un virus, peut-être, on ne peut pas l'arrêter. Et ça, tout d'un coup aussi, c'est un réveil pour beaucoup, beaucoup de gens de ma génération et des générations suivantes.
Philippe de Sertine, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette affaire, comme observateur ? Qu'est-ce qui vous a étonné ?
Je crois vraiment, enfin, voyez, évidemment, la première chose, étonné ou complètement décontenancé, c'est un arrêt de l'économie. On n'avait jamais vu ça. Hein, je disais, dans le livre, j'évoque, on dit, je fais beaucoup de panorama historique pour essayer de bien replacer notre époque dans un passé lointain. Le seul moment comparable, c'est la peste noire du XIVe siècle.
C'est 1350.
1350,
ça
exactement.
Date quand même.
Ça date un petit peu. Il a fallu 122 ans pour retrouver le PIB de 1348. Hein, donc, on va dire, là, on peut considérer qu'on va aller beaucoup plus vite. Il est vrai, heureusement, que c'est évidemment beaucoup, beaucoup
c'est
moins.
C'est pas les mêmes conséquences humaines.
Voilà, heureusement, heureusement, même si les conséquences sont lourdes, et on n'a peut-être pas fini de les mesurer. Donc ça, c'est évidemment la première chose qui était complètement incroyable, que l'économie soit en mode stop, parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais je crois que ce qui m'a le plus stupéfait, c'est justement l'invention incroyablement rapide d'un autre modèle qui se met en place en bricolant, avec donc évidemment beaucoup d'éléments négatifs qu'on a beaucoup tendance à souligner aujourd'hui en
vous
disant
pensez à quoi ?
Bah, le télétravail, bien entendu.
Oui.
Le travail à distance, l'enseignement à distance.
Il y a des éléments positifs et des éléments négatifs, bien sûr.
Mais le positif absolument fondamental, c'est que tout d'un coup, on ne bouge plus. C'est le mouvement quotidien pour aller au bureau, tout d'un coup, qui est remis en question. Moi, ce que j'évoque dans le livre, c'est en disant, en fait, on n'avait pas pensé autrement que de fonctionner comme nous avait appris la révolution industrielle. Mais on va à l'usine.
Oui, et puis, j'allais dire, notre génération, le progrès, c'était de plus en plus vite. C'était, d'un certain côté, toujours plus, comme le disait François Claudet, mais aussi et surtout de plus en plus vite. Vous nous dites, la société du futur, c'est une société, non pas immobile, mais en tout cas...
Ralenti sur le plan des déplacements. Quand on dit de plus en plus vite, ça peut être aussi ce que l'on exige, c'est-à-dire avoir de l'information plus rapidement, d'avoir de lire des choses.
Continue à aller
exactement,
très vite.
D'aller très vite pour venir à vous, où vous-même, vous ne bougez pas, mais vous avez besoin d'avoir des idées, des éléments, de la donnée, puisque j'insiste beaucoup, évidemment, sur cette valeur data qui est en train de s'échanger. Donc c'est vrai que je crois que ça, c'est un élément fondamental, c'est-à-dire que notre mode de fonctionnement, qui avait été imprimé par la révolution industrielle, ce que je dis dans le livre, c'est de dire l'usine est devenue le concept de mode de fonctionnement du travail. Et donc de mode de fonctionnement du territoire, c'est-à-dire on fait des usines, comme ici, nous sommes à Boulogne, on avait les usines Renault, et bien on a créé à La Défense les usines Renault du 20e siècle, de la fin du 20e siècle, c'est-à-dire des grandes tours, où les gens viennent exactement... Et là, tout d'un coup, Covid, on se dit, mais attends, mais au fait, on peut très bien fonctionner sans y aller. Mais vous vous rendez compte tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous n'avez plus de métro, vous n'avez plus d'autoroute, vous n'avez plus de RER, vous n'avez plus de grandes villes. Vous pouvez avoir des petites villes. Et vous avez juste besoin d'avoir effectivement une bonne connexion et peut-être bien la défendre. Parce que là, évidemment, on se rend compte aussi que, attention, nous avons des vulnérabilités, nous avons des enjeux, des défis, qui sont des défis auxquels peut-être on n'a pas pensé. On est trop sur la ligne TGV et pas assez sur la défense contre éventuellement un virus malveillant ou une attaque provenant de l'extérieur.
La semaine dernière, Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, qui justement marque un peu la césure hein, entre cette époque, le monde d'avant, le monde d'après, fêtait ses 100 jours à la Maison Blanche, à la présidence des États-Unis. Ignacio Bornacin nous fait le récit de ces 3 mois qui changent l'Amérique.
Premier défi et première réussite pour le président américain Joe Biden, une campagne de vaccination menée d'une main de maître. La vaccination est aujourd'hui ouverte à tous les adultes, se fait à pied ou en voiture, 7 jours sur 7 et sans rendez-vous par endroit. La vaccination s'invite même parfois là où on ne l'attend pas, comme à l'entrée des supermarchés ici à Washington, où nous croisons cette femme qui profite entre 2 achats de la présence des pharmaciens pour recevoir sa 2e injection.
Je n'ai pas pu visiter ma famille, mes amis ou aller à l'église, faire tout ce que j'avais l'habitude de faire. Maintenant que je suis vaccinée, j'espère que je pourrai tout doucement recommencer à faire tout ça.
Succès total. 141 millions d'Américains ont reçu leur première dose. Aucun autre pays n'a autant vacciné. Joe Biden ne perd pas de temps. C'est désormais l'économie qu'il faut relancer. Et pour ça, l'État s'est montré très généreux. 1200 euros donnés à chaque foyer des classes pauvres et moyennes pour relancer la consommation. Anacostia, un quartier pauvre de Washington, la capitale. Ici, cette aide a même réussi à sauver la famille de Dowitz Alamo, arrivée d'Éthiopie il y a 20 ans. Sans elle, il serait aujourd'hui à la rue.
J'ai 3 enfants. Je suis propriétaire de ma maison. Si je n'avais pas eu cette aide, j'aurais pu la perdre.
Des aides essentielles pour les habitants de ces quartiers. Coût total de ce plan de relance, 1600 milliards d'euros. Pour le financer, Joe Biden veut taxer les plus riches. Une mesure qui concernera 0,3% des Américains, les foyers qui gagnent plus de 800 000 euros par an. L'impôt sur le capital, c'est-à-dire sur l'argent gagné grâce à leurs actions, va doubler, passant de 20 à 39,6%. Une mesure qualifiée de socialiste par ses opposants. Il n'y a pas pire insulte pour un politique américain.
100 jours et 6 000 milliards de dollars de dépenses fédérales annoncées, hein, qui s'échelonneront bien sûr sur la décennie qui vient. Ça fait 5 000 milliards d'euros. Donc ça fait en gros 50 milliards par jour. Après les 3 000 milliards dépensés par Trump pendant sa dernière année. Les États-Unis n'en font-ils pas un peu trop ?
Ben, les États-Unis sont en train d'utiliser... Peut-être, là aussi, c'est le grand basculement. Hein. C'est-à-dire, c'est la fin de l'époque, mais tant qu'à faire, ils utilisent, peut-être pour la dernière fois, la planche à billets dollars. Je crois que vraiment, vous voyez, quand peut-être nos téléspectateurs, ils sont en train de dire, d'ailleurs, mais pourquoi on ne fait pas pareil, nous ? Donc,
vous voyez, mais... On n'en est pas loin, d'ailleurs.
Ah, quand même, hein, quand même. Nous, avec un plan à 100 milliards, hein, vous voyez...
Oui, mais parce que vous ne comptez pas le déficit public, il faudrait compter
alors,
aussi.
Alors là, ce n'est pas faux. Mais le déficit public américain, il est pas mal aussi. Hein. La dette publique américaine, elle a beaucoup augmenté. Mais enfin, on va dire, vous voyez, puisque nous, on est 10 fois... Nous, on est 10 fois. Notre PIB, c'est 1/10 du PIB américain. Ouais. 100 milliards, vous voyez, ça nous fait 1000 milliards. Eux, ils sont à 6 000. Et plus 3 000, ils sont presque à 8 000 au total. Donc c'est quand même des proportions assez gigantesques. Je crois que vraiment par rapport à tous ceux qui nous écoutent, il faut être très très clair là-dedans. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas d'idées tout d'un coup qui ont été libérées parce qu'on était tenus par les puissances de l'argent ou je ne sais quoi d'autre. Enfin, toutes les thèses complotistes ou parfois révolutionnaires qu'on entend. On ne peut distribuer que la richesse qu'on produit ou que celle qu'on va produire.
Ah ben attendez, c'est pas du tout ce qu'on fait en ce moment, pardon.
On est d'accord. Donc ça veut dire que quand vous êtes américain et que vous êtes en train de distribuer beaucoup plus que vous produisez, vous distribuez quoi ? La richesse du reste du monde. C'est ça. Vous êtes en train de distribuer la richesse du reste du monde. Mmh. C'est le fameux adage d'un secrétaire d'État au Trésor américain, qui était en l'occurrence celui de Nixon, qui avait dit « le dollar est notre monnaie ».
C'est votre problème.
Et votre problème. Mmh. Et bien là, aujourd'hui, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire en disant « les États-Unis impriment du dollar en disant « on en a besoin ». Et là, on dit « mais enfin, vous vous rendez compte, vous ne créez pas la richesse en face, le dollar va se dévaluer. Hein ? S'il va se dévaluer, vous allez avoir un problème dans le commerce mondial ». Donc, à vous de faire qu'il ne se dévalue pas. Et on voit très bien que d'ailleurs, Biden, de ce point-là, est très, très cohérent en disant « on va relancer le commerce international ». Parce que le commerce international, c'est ce qui va permettre d'équilibrer le dollar. Mais ça veut dire effectivement que tout le monde pédale pour rééquilibrer le système américain. Donc ça peut nous faire rêver. C'est le privilège du plus puissant. Je pense que les États-Unis doivent l'utiliser parce que il est possible que ce temps-là soit, on va dire, tout à la fin de la fin de la fin de l'histoire. Mais nous, Européens, on ne peut pas. Nous, on n'a pas cette possibilité d'émettre de l'euro en disant « l'euro est notre problème ». Ah ben oui, notre problème. Et ce n'est pas vous qui pouvez le résoudre. Donc je pense que c'est ça vraiment la grande différence avec les États-Unis. Alors évidemment, toujours avec l'idée que oui, mais s'il y a la croissance des États-Unis, tout le monde va en profiter.
Ça repart, c'est voilà. Ça tire un peu, disons, ça met du vent dans les voiles des autres. C'est une bonne idée d'augmenter les impôts sur les riches et sur les entreprises, puisque les deux sont envisagés aux États-Unis et d'ailleurs, au moins pour les bénéfices, aussi au Royaume-Uni, pays plutôt à droite.
Hein, oui. Alors, donc là, bien entendu, rappelons toujours à tous les Français qui nous écoutent en disant « Ah ben voilà, là, on prend des bonnes mesures, que nous sommes le pays avec les plus grands prélèvements obligatoires du monde ». C'est-à-dire que nous, c'est ça notre problème, c'est qu'on n'a vraiment pas de latitude là-dessus. Hein, et que quand les Américains ou les Anglais sont en train d'augmenter les impôts, c'est qu'ils en avaient beaucoup, beaucoup moins que nous. Et que par conséquent, alors, sur l'impôt sur les personnes, hein, vous avez une fiscalité qui est forte sur les personnes. C'est vrai. Une fiscalité aux États-Unis. En revanche, une fiscalité sur le capital, beaucoup, beaucoup moins forte.
Bien sûr.
Toujours l'idée américaine, c'est de dire production de richesse. C'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure en disant, si l'argent est réinvesti pour produire de la richesse, j'essaie de pas le taxer, c'est-à-dire j'essaie de pas le faire passer par les les caisses de l'État. Là, évidemment, on est dans une situation où nous avons eu tellement d'impressions de monnaie, de création monétaire, que nous déséquilibrons l'ensemble du système économique et financier. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien sûr, que ça n'est pas normal de voir les niveaux boursiers que nous connaissons aujourd'hui. Ça veut dire que vous enrichissez de manière incroyable quand vous détenez des actions, parce que nous injectons de la monnaie et que cette monnaie crée une bulle générale sur les actifs et en particulier sur les actifs boursiers. Donc là, ce qu'a dit l'administration Biden, c'est en disant bon bah là il va falloir quand même qu'on prélève un peu de cette richesse pour essayer de la faire revenir, notamment sur des grands projets, c'est-à-dire sur des grands investissements. C'est comme ça qu'il le motive. C'est pas pour payer de la dépense, c'est pour payer de l'investissement d'infrastructure dont on sait que les États-Unis ont un énorme besoin.
J'entends, vous le dites pas, mais c'est un peu en sous-titre dans ce que vous dites, que plutôt une bonne idée. Alors la politique économique de Joe Biden, elle est plutôt pas mauvaise ?
Ah, je pense que dans, je dirais, les 100 jours, comme vous dites, qui viennent de se passer, honnêtement, Biden a pris des très bonnes décisions. Il a mis des gens qui étaient des gens, on va dire, de qualité. Quand il met Janet Yellen, ancienne patronne de la Banque centrale, à la tête du secrétariat d'État au Trésor, c'est très intéressant parce que ça va permettre d'avoir une vraie coordination, ce qui était un des problèmes qu'on a eu dans les dernières années, et notamment au moment de la crise de 2008. Une bonne coordination entre la Fed, entre, on va dire, celle qui représente l'ensemble du système financier et les décisions qui vont être prises du point de vue de la politique générale économique. Donc tout ça est quelque chose qui est, on va dire, intéressant, intelligent, dans une bonne approche du problème. Mais répétons-le quand même, avec cette logique qui est une logique de fuite en avant des États-Unis qui, à la fin, peut redevenir le problème du reste du monde.
C'est le nouveau Roosevelt, comme le disent certains médias français, particulièrement à gauche, justement, qui exhorte la France à suivre ses traces, oui, notamment en matière fiscale, même en partant d'un point qui n'est, comme vous l'avez rappelé, pas du tout le même.
On est évidemment très très loin de ça. On est très loin de ça. Je pense qu'il y a évidemment comparaison entre la crise de 29 et la crise que nous vivons. Il y a évidemment comparaison dans le plan de relance qui est fait, avec juste l'idée, effectivement, que du point de vue de la situation qu'avait trouvé Roosevelt, c'était une situation infiniment pire que celle
plus
que
dégradée, trouvait, bien sûr.
C'est-à-dire les États-Unis, l'existence même des États-Unis était remise en question. Oui. Et donc là, il y avait des mesures qui étaient des mesures impératives immédiates. En ce qui concerne, toujours pareil, hein, souvenons-nous que le New Deal de Roosevelt, c'était $1 milliard à l'époque, hein, donc sur 8 ans. Même en dollars d'aujourd'hui, ça vous fait 120 milliards. Au total. C'est-à-dire que là, on parle de 8 000 milliards dépensés, là, en quelques temps. Je répète bien, on parle des mêmes dollars quand on évoque ça. Donc, si c'est Roosevelt, c'est Roosevelt puissance 100.
Il y a un facteur 80. Voilà. Et dernière initiative du président américain, justement, c'est de dire qu'il faut libérer les vaccins des brevets qui les protègent de l'invention de façon à diffuser, justement, la production de ce précieux produit pour permettre aux pays pauvres de fabriquer eux-mêmes leurs doses. On va écouter Emmanuel Macron qui s'exprimait hier sur le sujet. Comme vous allez le voir, il n'est pas d'accord.
La priorité d'aujourd'hui, ce n'est pas les brevets. Ce n'est pas vrai. On se mentirait. C'est la production. Donc, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la production ? D'abord, c'est d'ouvrir. Il disait, nous, sur ce qu'on a produit, on a à peu près laissé exporter 50%. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, 100% de ce qui a été produit a été consommé sur le marché domestique. Ça, c'est le premier levier. Et donc, il faut d'abord que les Anglo-Saxons arrêtent les interdictions d'export.
Une bonne idée que de réserver momentanément ces brevets et de diffuser la propriété intellectuelle partout dans le monde ?
Ah, c'est une vraie grande question importante. Hein. Donc effectivement, la vraie question tout de suite, c'est les pays pauvres, ça fait aucun doute. Donc le président Macron vient d'évoquer les Anglo-Saxons, il a utilisé le terme, hein, on a bien compris, les Anglais et les Américains notamment, en disant c'est eux qui empêchent la production. On peut dire aussi qu'il y a une énorme inquiétude du point de vue de la production, c'est la matière première. C'est-à-dire que c'est pas simplement la question du brevet, c'est la question de savoir est-ce qu'on va pouvoir le faire avec la matière première disponible. Donc ça, on a ces questions-là qui se posent, qui sont très fortes, parce que ça veut dire est-ce qu'on répartit la matière première de façon égalitaire dans tous les peuples du monde.
Ou en fonction de la population,
ah, oui, mais alors
ce qui
là,
serait une révolution. Hein.
Oui, mais ça, ce serait une révolution très très négative pour les Occidentaux.
Ah, hein,
je peux vous dire que là, la vaccination aux États-Unis et en France, tout d'un coup, elle s'effondrerait. Mmh. Donc on est avec cette question, qui est une vraie question dans la grand basculement, c'est-à-dire la fin de la domination de l'Occident, c'est la période qui s'annonce, ça veut dire ça. Alors après, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, c'est vraiment un sujet très très intéressant parce qu'il faut se souvenir que les États-Unis sont toujours en négociation avec la Chine pour avoir des accords commerciaux et que sous la présidence précédente, donc de Donald Trump, l'un des points vraiment les plus compliqués sur lesquels la négociation a achoppé, c'est sur la question des droits de propriété intellectuelle.
Qui était d'ailleurs piratée par les Chinois sans vergogne.
Oui, alors bien sûr, mais je crois là aussi que nous sommes dans quelque chose qui est une évolution de mentalité. Et vous parlez des Chinois, peut-être de la mentalité asiatique. La mentalité asiatique n'est pas la même que la mentalité occidentale. En particulier, vous voyez, nous, la propriété de l'individu passe avant tout. En Chine, et comme en Asie, c'est le bien-être du groupe qui passe avant tout. Et donc personne ne penserait...
C'est les sociétés confucéennes qui font prévaloir le groupe.
Exactement. Et donc Confucius n'aurait jamais dit que parce que vous avez inventé un vaccin qui peut soigner tout le monde...
Vous en êtes le propriétaire.
Vous allez être propriétaire, vous allez pouvoir le garder. C'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui de manière très très forte dans cette vie, qui est une vie importante maintenant du point de vue économique et réel sur les réseaux, c'est-à-dire la communauté. L'aspect communautaire, moi, en matière de recherche, j'ai même été confronté à ça. Vous voyez, le choc des générations, c'est-à-dire mes étudiants qui vont chercher des algorithmes, qui les améliorent. Donc, les algorithmes, ils les ont gratuitement. Ils les remettent gratuitement, alors que moi, par exemple, j'ai payé des chercheurs pour le faire. Je leur dis, mais quand même, on va pas mettre quand même avoir peut-être un petit droit, nous. Ils me regardent en disant...
Vous faites du Trump, en fait.
Mais oui, mais non, mais il me dit, Philippe, là, t'es plus dans le bon siècle. Le fait qu'on l'ait fait, ça va savoir, mais c'est pas notre propriété. Et là, on est typiquement dans des évolutions où on va avoir une immense partie de la population, peut-être une immense partie des gens qui nous écoutent, qui vont dire « Ah, bah alors il va être content quand on va photocopier son livre, machin, etc. » C'est-à-dire, oui,
J'allais vous dire, parce que c'est l'argument des labos qui disent « Mais attendez les amis, je me fais prendre le résultat de mes recherches après avoir dépensé 1, 2, 3, 5 milliards, je ne chercherai plus. » C'est un argument qui s'écoute du point de vue, j'allais dire, psychologique même. Hein. C'est l'économie très primitive, mais néanmoins très prégnante.
On est d'accord. Alors après, vous avez probablement une autre partie des gens dans le débat qui vont dire « Ah oui, mais vous avez pu dépenser 5 milliards parce qu'il y a une dépense publique qui a permis de... » Et notamment, vous avez... ce qui n'est pas faux non
c'est
plus.
C'est pas faux.
Mais dans tous les cas de figure, je crois que nous sommes dans un changement très très profond, comme nous l'évoquions depuis tout à l'heure, un changement très profond aussi dans la façon de rentabiliser, parce qu'évidemment, il n'est pas question de dire que vous n'avez pas rentabilisé les travaux que vous allez faire. Vous avez d'autres manières peut-être que simplement le fait d'avoir un paiement de loyer. Quand vous êtes avec une technologie qui ne bouge plus beaucoup, eh bien là, effectivement, vous pouvez avoir des rentes. Mais quand nous rentrons dans une période dans laquelle les technologies explosent littéralement, eh bien, vous allez avoir d'autres gains possibles. Aujourd'hui, Moderna, pour reprendre cet exemple, entre parenthèses, toujours peut-être...
Qui fabrique un vaccin ARN messager.
ARN messager avec
à
la tête de la société en français. Les Européens, la question du vaccin, c'est quand même une énorme épine dans le pied des Européens, quand même, dans le mode de fonctionnement de recherche. Et peut-être, si on prend les premiers, ce serait les Français.
Vous avez quand même BioNTech, qui est une société allemande.
Oui, je vous parlais des Français, là.
Des Français,
mais même BioNTech.
Non, parce que vous disiez que c'est un problème européen.
Oui, européen. Mais si, européen, parce que BioNTech, ils se sont associés avec Pfizer, alors que vous avez des énormes laboratoires en Allemagne.
C'est vrai. Au moins, la créativité était là. Enfin, en Allemagne,
BioNTech, ils se sont financés aussi avec des capitaux américains. Donc là, on est aussi avec des vrais, vrais gros problèmes, des vraies interrogations. Toujours pareil, quand nous sommes dans des moments d'instabilité très forts du point de vue de la technologie, où il faut inventer, il faut prendre des risques. Prendre des risques, ça veut dire dépenser, ça veut dire perdre beaucoup d'argent. La vraie question, effectivement, c'est de dire, quand vous avez perdu beaucoup et vous trouvez, est-ce que vous ne devez pas être rémunéré? Eh bien, Moderna, pour reprendre l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, ils ont été rémunérés tout de suite, même pas en vendant leur vaccin, avec les marchés financiers. C'est-à-dire qu'ils ont immédiatement des quantités de gens qui leur apportent beaucoup d'argent. À la limite, la question, on va dire, du loyer associé au vaccin est presque secondaire quand vous êtes en train de regarder en quelques jours le développement de l'entreprise.
Si le cours de Moderna monte, c'est quand même parce que les investisseurs se disent « il y aura du loyer ».
Non, parce qu'ils se disent « ces gens-là sont exactement là où il faut ». Aujourd'hui, quand vous avez, quand vous êtes sur Tesla qui monte de façon incroyable, c'est ils disent « non mais, a priori, ils ne gagnent pas d'argent ».
Bénéfices futurs.
Non, mais ils disent « ces gens-là sont à l'endroit où il faut ». On ne mesure pas bien les bénéfices aujourd'hui. Il y a tellement de monnaie. La notion de bénéfice est devenue extrêmement compliquée à bien représenter. C'est très compliqué de dire comment vous allez faire un plan d'avenir. En revanche, on est de plus en plus sur les éléments impact réel. Ces gens-là sont à la technologie. Ils ont tout de suite ma confiance. Et la confiance aujourd'hui, elle se gagne d'abord par de l'impact plus que par du chiffre. Et ça, c'est la marque même des grands moments de changement technologique.
Vous évoquiez la Chine, l'Asie, bien sûr, le monde confucéen. C'est vrai qu'on a vu prendre un peut-être pas un ascendant, mais en tout cas une longueur d'avance dans la gestion de la crise, et ça a consacré des choses qui étaient évidemment antérieures. Mais cette semaine, polémique entre le Financial Times, grand journal britannique, et puis Pékin, puisque le FT dit « on a des informations, pour la première fois depuis les années 50, les grandes famines liées à la politique catastrophique de Mao Zedong, la population chinoise va diminuer. Il est possible, dit le FT, qu'elle passe en dessous d'1,4 milliard. » Pékin se réécrit en disant « pas du tout », etc. Au fond, cette question démographique, elle est là, que ça soit cette année ou dans 5 ans, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que ça ne compromet pas le désir, le rêve de Pékin de devenir, de redevenir la première puissance mondiale ?
François Langlais, la démographie, je l'évoque sans arrêt dans mon livre, elle est absolument centrale. D'ailleurs, quand on parlait du climat tout à l'heure, on doit proposer un modèle pour 8 milliards d'humains. Aujourd'hui, on est beaucoup trop dans les questions qui nous regardent, nous, occidentaux, disant comment on va consommer moins. Non, non, le problème, c'est 8 milliards. C'est pas nous. On n'est même pas un petit milliard d'occidentaux. Du point de vue démographique, l'Asie, c'est 4,3 milliards. Les États-Unis, c'est 329 millions. C'est 0,32. L'Europe tout mouillée, c'est 600 millions. Ça veut dire que, c'est clair, c'est en Asie, aujourd'hui. La démographie est revenue au centre du jeu. C'est en Asie que vous avez le futur. La question, donc, c'est la Chine. La Chine, première puissance démographique, première puissance asiatique. Aujourd'hui, deuxième puissance mondiale, avec un taux de croissance qui fait qu'on peut penser très vite que l'on va vers un dépassement des États-Unis. Le problème, en effet, est un problème démographique. La Chine va traîner, si je puis dire, ou en tout cas va être confrontée très vite au mur de sa démographie, qui a été le mur créé par la politique de l'enfant unique. Quand vous ne développez pas, vous ne créez pas de richesse, donc il faut faire moins d'enfants. Ça a été vraiment la grande question de Mao. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toujours l'Asie, mais que vous avez une puissance concurrente beaucoup plus dynamique d'un point de vue démographique, qui est son voisin, qui s'appelle l'Inde. L'Inde est cinquième puissance du monde aujourd'hui. L'Inde est confrontée à l'heure où nous parlons, ou à la tragédie de la première vague, de sa première grande vague Covid. Néanmoins, l'Inde, c'est très clairement l'immense concurrent de la Chine pour le 21e siècle. J'allais dire le 22e siècle, mais déjà le 21e. Pour les autorités chinoises, la question américaine, elle est déjà réglée. En revanche, leur vraie préoccupation, c'est l'Inde. Et je vous rappelle que pendant l'été 2020, pour la première fois, on a eu à nouveau, c'était pas arrivé depuis pratiquement 40 ans, des morts entre...
Des affrontements
extrêmement forts, entre probablement des centaines, on a du mal à avoir les chiffres, des centaines de milliers de soldats indiens et chinois dans l'Himalaya. J'en parle assez longuement dans le livre, j'étais en train d'écrire et j'avais les informations qui tombaient, je trouve ça extrêmement important. Incontestablement, la Chine va avoir, quand elle va être sur le toit du monde, immédiatement, très très vite, la question de la démographie.
Ça veut dire que la guerre froide sino-américaine, c'est du passé, dites. En fait, le vrai sujet, c'est la prochaine guerre froide ou chaude, d'ailleurs, entre la Chine et l'Inde.
Oui, et là, pour le coup, il y a non seulement la question de la démographie, j'évoque longuement ça dans le livre, mais aussi le fait que la Chine est puissante et s'est développée sur le modèle du XXe siècle. C'est l'industrie du monde. L'Inde a lancé son développement sur le XXIe siècle, sur la data. Elle a utilisé sa population, on va dire, c'est pour ça que la démographie redevient absolument fondamentale. L'élément le plus important, ce sont les cerveaux. Elle a utilisé ses jeunes cerveaux à faire des codeurs. C'est l'usine à codage du monde. Et n'oublions pas que les valeurs aujourd'hui, dès lors que vous avez de la data, c'est exactement les mêmes choses qu'on évoquait tout à l'heure par rapport au plan de relance. Vous multipliez par 100. Vous avez Renault qui vaut 4, 5, 6 milliards en bourse et vous avez Google, Apple qui valent 2000 milliards. On est avec des rapports, voire même Tesla qui vaut presque 1000 milliards. C'est-à-dire, alors qu'ils produisent beaucoup, beaucoup moins de voitures, mais ils produisent de la data. Donc là, évidemment, l'Inde qui a fait ce choix-là, et qui est, on va dire, positionné dans la logique de la data, est un choix incontestablement qui est extrêmement porteur à terme. Simplement, évidemment, il faut quand même un peu de production physique, vous avez besoin d'un certain nombre de choses pour fonctionner et pour vous développer, et là, l'Inde est confrontée au problème inverse de la Chine. La Chine doit très très vite basculer, parce que sinon, ils vont avoir un vrai problème de modèle, ils l'ont déjà. L'Inde doit arriver à nourrir une croissance suffisante pour certes être présent sur la data, mais aussi avoir l'équipement nécessaire à l'enrichissement de sa population.
Entre aujourd'hui et le long terme, il y a quand même le moyen terme, il faut s'en occuper.
Exactement.
Alors, en Europe, pour le coup, on voit des indicateurs économiques qui, cette semaine, plutôt assez favorables. Les fameux markets qui témoignent. C'est une enquête qui est très bien faite depuis 1997. Et elle nous dit on n'a pas vu des chiffres aussi favorables depuis 1997, c'est-à-dire plus de 20 ans. On n'avait pas vu des chiffres aussi noirs, évidemment, pendant la période du Covid. Mais est-ce que vous croyez à une franche et vraie reprise en zone euro pour 2021 ou pas ?
Absolument. je crois qu'au niveau mondial, on va sur une reprise absolument prodigieuse. Alors quand on dit prodigieuse, effectivement, notre spectateur va dire exactement ce que vous venez de dire. Oui, mais attends, on a eu un effondrement prodigieux aussi, hein, c'est-à-dire que c'est juste la récupération. J'essaie toujours de prendre cette image en disant, si je vous dis 130, c'est rapide ou pas? Si vous êtes à 125, vous dites, bah non, c'est pas très rapide, c'est juste 5 km/h. Si vous êtes à zéro, 130, ça va faire un coup de pied aux fesses incroyable. Nous avons été arrêtés. Nous allons passer d'un seul coup d'un seul à 5,5-6%. Et même, vous voyez là, les prévisions de croissance pour la France, qui étaient plutôt revues à 5,5, même un peu moins, on est en train de les remonter, en train de dire, ben oui, mais même le premier trimestre, alors qu'on pensait qu'en confinement, on ne serait pas en croissance, on a plus 0,4. Et en réalité, la reprise va être extraordinaire. C'est très important d'avoir ça à l'esprit et que les gens, notamment les acteurs économiques qui nous écoutent, l'entendent bien, c'est que c'est un énorme défi. Vous allez avoir à gérer 6% de croissance. Non, non, ce n'est pas une récupération, c'est 6%. Non. Et gérer 6%, ça veut dire vous approvisionner, ça veut dire trouver des talents, trouver des ressources humaines, ça veut dire lutter contre des concurrents qui vont avoir les dents très, très aiguisées, parce que là, ceux qui vont survivre, ce sont des entreprises qui vont vouloir très, très vite redistribuer les cartes. C'est exactement ce qu'on est déjà en train de voir dans plein de secteurs. Et ça veut dire effectivement pour l'Europe, un moment extraordinaire de reprise, mais deux, un moment extrêmement sensible en termes de concurrence.
De compétition.
Et de compétition intra-européenne. Et là, je crois qu'effectivement, il faut bien se dire, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Et les gagnants, les perdants ne sont pas associés au Covid, mais vont être associés à ceux qui ont cru ou non à la vigueur de la reprise. On aura une reprise encore plus forte en Asie qui va tirer l'économie mondiale, dont l'économie européenne va bénéficier, et une économie américaine tirée par les plans extraordinaires, par le dollar, par l'injection de dollars qui va là aussi profiter à l'économie européenne.
L'une des manifestations des tensions que vous évoquez, ça peut être la hausse des prix. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à 1,6% d'inflation, c'est un peu plus qu'avant, mais enfin, ça reste à des niveaux tout à fait acceptables. Est-ce que vous croyez, à cause de ces pénuries qu'on voit sur le PVC, sur le bois, sur les composants électroniques,
sur l'acier, la
plupart des métaux, est-ce que vous croyez à une reprise de l'inflation significative, 4, 5, 6%, nous disent certains?
Alors, vous voyez, donc il faut être très humble, parce qu'il y a 6 mois, je vous aurais dit, non, parce qu'on est plutôt en déflation, on voit vraiment que la demande ne repart pas, etc. Et là, aujourd'hui, effectivement, on a vraiment beaucoup d'indicateurs qui sont des indicateurs, alors, sinon inquiétants, enfin, c'est d'ailleurs presque l'inverse, c'est-à-dire que...
De surchauffe, vous voulez dire.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on voit le pétrole, par exemple, qui va tirer aussi la hausse des prix, qui se calme si vous avez moins de création d'emplois aux États-Unis. Donc, lorsqu'on va dire, ça repart moins bien compensé, les prix baissent. Si ça repart très fort, donc ce qui est une bonne nouvelle, évidemment, les prix montent. Parce qu'on voit bien qu'on va avoir une compétition absolument féroce sur les approvisionnements. Et je crois que là, on ne se rend pas bien compte, on n'a pas encore bien mesuré à quel point des secteurs, par exemple, le secteur du bâtiment en France,
est
impacté de manière incroyable. J'ai des gens sur le secteur du bâtiment qui me disaient, en ce moment, j'ai des devis qui sont valables 2 jours. C'est-à-dire, on a des telles variations de prix, des augmentations de prix tellement incroyables sur des matières premières complètement indispensables aux travaux, qu'on dit, mais je ne peux pas vous garantir, ou alors, je vous fais juste un devis, mais hors prix de la matière première. Donc ça, évidemment, là, vous avez un élément contaminant d'inflation extrêmement fort. Extrêmement fort, qui en soi n'est pas un problème quand vous avez une croissance très très forte, qui est juste un problème quand vous êtes lourdement endetté. Parce que quand vous avez de l'inflation, vous allez avoir une remontée des taux. Et quand vous avez une remontée des taux, là, vous avez immédiatement le gars qui est en charge des finances publiques, que nous regardions quand j'étais au Conseil, qui va commencer à avoir des petites gouttes de sueur sur le front.
vous me précédez, vous me devancez, bien sûr. L'une des conséquences de l'inflation, ça peut être la montée des taux d'intérêt. Ce stock de dette incroyable, on est à plus de 62 000 milliards de dollars au niveau mondial, multiplié par 4 en 25 ans. Et puis, vous l'avez dit, la tendance de la dernière année, elle est carrément, c'est une ascension verticale. Comment on sort de ça?
Donc, vous avez 2 solutions possibles. Donc, on va évoquer la première parce que c'est celle à laquelle tout le monde parle quand les gens vous rencontrent et que vous dites « Mais vous pensez quoi sur la dette ?» Vous voyez dans leurs yeux qu'ils disent « Je vois comment ça s'est passé dans
l'histoire. »
C'est
d'ailleurs une question des gens, je dirais, le français de base, le français
moyen. D'ailleurs, ils ont raison d'ailleurs.
Les gens s'inquiètent de ça.
Excusez-moi, mais pendant des années, des siècles, la pensée économique aurait dit que ça, c'était la catastrophe annoncée. Puis là, on dit « Non, vous inquiétez pas, même pas mal. »
C'est très inquiétant d'entendre ces discours.
On est d'accord. Ouais. On est d'accord que là, il y a une espèce de légèreté et des économistes et des politiques parfois qui est quand même glaçante, qui d'ailleurs est encore pire parce parce qu'elle inquiète encore plus la population qui dit « c'est pas possible, il nous cache quelque chose ». Donc première solution, vous avez effectivement l'effondrement monétaire, on va dire, en tout cas, bon, ce qui s'est passé dans, autrefois, hein, quand vous avez eu, on parle souvent de la comparaison avec les années 20 du 20e siècle, les années 20 qui commencent, hein, puisque nous sommes juste au début des années 20, les Roaring Twenties du 20e siècle, c'était de la dette folle émise pour financer la Première Guerre mondiale, et qui vous fait de la bulle, on va dire une sorte d'euphorie artificielle, et qui finit en 29. C'est-à-dire, vous avez la purge du système, bon, en fait, qui finit avant, en Allemagne, hein, dès le début des années 20.
Le début des années 20, c'est la catastrophe monétaire.
C'est la catastrophe monétaire, c'est-à-dire qu'en réalité, là, qui c'est qui perd, c'est tous ceux qui ont quelque chose. Hein. C'est-à-dire, évidemment, quand vous n'avez rien à perdre, ben, vous êtes toujours au même point. C'est-à-dire, en clair, c'est l'épargne. C'est l'épargne qui est l'euthanasie du rentier, pour reprendre le terme d'un grand économiste John Keynes. Hein, c'est-à-dire, effectivement, que ce soit par l'inflation, que ce soit par tout un tas de solutions, vous allez avoir, en fait, une espèce de remise à plat, on remet tout simplement la masse monétaire, la masse de dette, en accord avec la masse de création de richesse. Donc ça, c'est première solution, celle qui glace les sangs, celle qu'évidemment, on ne peut pas écarter. Deuxième solution, alors pour le coup, celle-ci, elle est passionnante, parce que c'est celle, moi, que je défends dans le livre, et je pense qu'on est déjà en train de la voir se mettre en œuvre, c'est que vous ayez une telle rupture technologique, un tel changement de modèle qui, répétons-le, est obligatoire du fait du dérèglement climatique. Hein, si vous êtes en train de dire dans votre fauteuil en dimanche après-midi, non, mais moi j'en ai marre, son monde ne m'intéresse pas, le monde qui me présente me glace. Non, mais la question du constat ne se pose pas. De toute façon, nous devons changer. Quand vous êtes avec un changement obligatoire, une rupture technologique incroyable, vous allez avoir, on va dire, la richesse qui va être calculée différemment. On va avoir donc... On est dans une phase qu'on évoquait tout à l'heure sur le poids de la data, sur le poids de l'impact environnemental. Tout d'un coup, cette valeur qui apparaît.
C'est Tesla.
Ça peut être aussi Amazon. Ça peut être, je dirais, aussi une entreprise, j'en sais rien, une entreprise de l'hydrogène qui vient de se coter sur la Bourse de Paris. Tout d'un coup, qui peut prendre de la valeur. Je ne donne pas son nom, mais c'est celle que j'ai donnée comme examen à l'Institut de haute finance. Je viens de corriger les copies. Vous voyez, bon, là, tout d'un coup, vous allez avoir une valeur nouvelle. Ça veut dire qu'elle attire la monnaie. Ça veut dire que votre dette nouvelle, elle migre. Et elle va sur ces nouvelles valeurs que l'on a du mal à représenter, ce qu'on évoquait tout à l'heure, avec éventuellement des comptes de résultats habituels, avec vos pertes et vos produits.
Ça dévalue, au fond, le stock de dette accumulé auparavant parce que la richesse créée
rééquilibre. Ça l'a fait migrer. Et donc, vous voyez bien que la dette ancienne, elle va financer que des gens, que des fonds qui sont sur ces nouvelles valeurs. Et souvent, dans ce cas-là, on finance quoi ? On finance du réel, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est en train de prendre une place énorme du point de vue monétaire. C'est ce qu'on appelle la finance d'impact. On finance de l'impact, on finance plus du bénéfice.
Oui, Philippe de Sertine, mais vous nous disiez tout à l'heure, il y a une bulle gigantesque. Est-ce qu'on peut à la fois s'inquiéter de la bulle et en même temps se féliciter du fait que les sociétés innovantes représentent des valeurs complètement délirantes ?
C'est une course de vitesse. On est d'accord, c'est une course de vitesse. C'est-à-dire que si vous restez... Et c'est pour ça que ce qui s'est passé avec Covid, l'aspect accélérateur est fondamental. C'est que jusqu'à début 2020, on disait, on risque de la perdre. C'est-à-dire la bulle qui est en train de se faire, de point de vue global, risque à la fin de nous entraîner. Et on l'a vu, parce que là, ceux qui se trompent, ce sont les financiers. Donc c'est par eux que commence l'effondrement, comme on l'a connu en 2008. On est dans le même phénomène. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, 2008, c'est déjà de la dette folle émise par un Occident qui crée de moins en moins de richesses, alors que c'est les pays émergents et la Chine qui en créent de plus en plus. Donc c'est l'Occident qui gère la dette, donc il en crée pour lui, mais il y a un problème de lien entre les deux. Là, évidemment, on était encore plus dans cette situation début 2020, sauf que Covid accélère énormément les choses. Et que là, on a l'impression que la migration, elle se fait d'un seul coup, d'un seul, on le disait tout à l'heure. Parce que pour le coup, on n'est plus simplement dans des souhaits ou des observations financières et économiques, on est avec des changements de comportement des vrais gens. Et partout dans le monde, c'est pas un pays ou deux, c'est partout dans le monde, vous avez des débuts de changements de comportement qui affole, je dirais, tous les décideurs de l'ancien monde, qui affole tous ceux qui sont en train de dire « Mais moi, vous vous rendez compte, j'avais fait des investissements qui étaient pour des modes de fonctionnement complètement différents, etc. » Mais qui, on le sent bien, va être une sorte de gigantesque marée qui va tout balayer.
Plutôt positif, alors, tout
absolument.
Ça.
Absolument. Hein. Absolument. C'est-à-dire, je pense qu'on est exactement dans la situation qu'on avait pu connaître. Hein. On a eu des moments, je dirais, de relative déflation avec des grandes interrogations. Ouais. À la fin du 18e siècle, par exemple, début du 19e, quand les nouvelles technologies apparaissent. Ouais, quand vous avez encore un cheval qui vaut cher, Puis après, quand à la fin du 19e siècle, vous avez une voiture, et d'ailleurs on dit, ah bah oui, une voiture, oui, c'est 4 chevaux pour essayer de représenter, quoi. Puis après, 300 chevaux. Non, non, ça y est, je suis en cheval, je ne représente plus. Vous voyez, et la valeur, elle a quitté les écuries, elle est partie sur le garage.
C'était la même chose d'ailleurs à la fin du 19e, au moment où l'électricité se diffuse, on a exactement le même type de phénomène.
Exactement. Hein, vous êtes vendeur de bougies, vous êtes encore richissime, et là, tout d'un coup, l'électricité arrive, elle déferle. Et je crois que vraiment, vous voyez, on est dans ce moment clé de bascule. Enfin, de basculement, faut pas que mon éditeur va me dire, mais faut que tu dises ton titre, non? De basculement. Donc c'est vraiment ce moment-là qui est un moment, à mon sens, un moment absolument passionnant, absolument fantastique, mais qu'il ne faut pas qu'on rate.
On peut passer de l'ancien monde au nouveau monde sans crise financière ?
Enfin, honnêtement, parce que là, on rajoute les deux, hein, c'est-à-dire on a passé ancien monde, nouveau monde, plus passage de témoins, Chine-États-Unis, plus passage de témoins, Occident, Asie, on va dire.
Hein. Beaucoup de secousses.
Ça fait beaucoup de secousses en même temps. Donc c'est non seulement crise financière, mais là, pour être carrément, je dirais, très clair par rapport aux gens pessimistes qui nous regardent, et guerre. Parce que dans les moments comme ça, toujours dans le passé,
confrontation.
Ah bah toujours, hein, c'est-à-dire la Grande-Bretagne cède la place aux États-Unis, c'est la guerre de 14. Hein, la France cède la place à la Grande-Bretagne, c'est Napoléon, enfin qu'on vient de célébrer, mais enfin c'est Waterloo surtout. Hein, donc c'est-à-dire vous avez sans arrêt, je dirais, des secousses quand vous avez en effet ce changement de témoin. Toujours pareil, là on est dans une situation qui est une situation extraordinaire d'un point de vue historique, c'est l'obligation de changement avec le climat. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu. Planète énorme, mais planète avec le sentiment, et pas qu'un sentiment, c'est-à-dire une sorte de pression externe qui fait qu'il n'y a pas le choix. Donc je pense que la course de vitesse, elle sera gagnée positivement. Mais ce n'est pas gagné quand même, à coup sûr.
Cette semaine encore, pour revenir à la politique française, c'était les tentatives d'accord entre Renaud Muselier, le président de la région PACA, et puis la majorité actuelle, hein, La République En Marche, le parti du président... tentative avortée, mais la droite est prise en tenaille quand même entre le Rassemblement National, La République En Marche. On va écouter Michel Barnier qui redoute la réapparition du duel entre les deux figures clés de la politique actuelle, hein, Marine Le Pen et puis le président de la République. On l'écoute et puis vous nous donnez votre sentiment après sur cette élection qui pointe.
Si cette situation se reproduisait, je vous dis simplement que nous allons tout faire pour qu'elle ne se produise pas et qu'il y ait un autre choix proposé aux Français dans la clarté. Et que les Républicains, la force de cette droite républicaine à laquelle j'appartiens depuis toujours, même si j'y ai toujours eu ma liberté de parole et de ton, et je continuerai, cette famille républicaine, de la droite républicaine, doit être capable de proposer une alternative aux Français. Mais... faute de quoi, permettez-moi de vous dire, on sera dans le risque qu'un événement improbable, comme je l'ai dit tout à l'heure, se produise dans notre pays.
Michel Barnier qui s'exprimait tout à l'heure au grand jury, RTL, Le Figaro et LCI bien sûr. Quel est votre sentiment sur la campagne électorale qui se profile ? On est à un an de cette élection. Selon vous, les thèmes qui vous sont chers, qui vous semblent indispensables pour une France renaissante, vont-ils être abordés et bien ?
Oui, parce qu'on peut rajouter d'ailleurs à la problématique de la droite celle de la gauche. Hein. On va souhaiter demain l'anniversaire d'élection de François Mitterrand. On va dire qu'on voit des deux côtés, hein, qu'on est dans un marasme absolument incroyable, historique là aussi. Moi, je ne vais pas du tout rentrer dans le débat politique. En revanche, je voudrais vraiment souligner, moi, en tant qu'économiste, combien toutes les campagnes présidentielles depuis des années ont été incroyablement à côté des grands problèmes qui allaient se poser. Je crois que vraiment, là, à mon sens, il y a deux écueils absolus. C'est la déprime et le rétroviseur. Si vous êtes en train de parler, ah oui, vous pouvez parler aux gens déprimés et leur dire on va être encore plus déprimés avec vous. D'ailleurs, on vous regarde pas assez. On peut dire oui, mais regardez le passé, comment ça fonctionnait. C'est les deux erreurs majeures, à mon avis, qu'il ne faut pas commettre. Déprime, rétroviseur, j'ai l'impression quand même qu'à chaque fois, on est avec des choses qui se croisent. Parfois même, vous allez deux ensemble à l'intérieur des grandes propositions des grands partis.
Dernière question, Philippe de Sertine. Quel est le meilleur livre que vous avez lu récemment ?
Alors peut-être, donc là, vous m'avez dit que vous avez posé cette question, je n'avais pas pensé comme ça, mais peut-être je vais vous dire, je relisais, et c'est vrai, vraiment, une pièce absolument géniale, un petit livre, une pièce, elle s'appelle « Le Père » de Florian Zeller. Vous savez, Florian Zeller, il vient d'avoir deux Oscars, mais lisez sa pièce. Sa pièce, elle est magnifique. Nous avons des grands auteurs français.
Mais ça parle de quoi ?
Le père, ça parle, c'est un tout petit peu déprimant, ça parle d'un père qui est en train de perdre, qui est sans doute Alzheimer, vous voyez, et qui a le sentiment que son monde est en train de changer avec sa fille, ses enfants autour de lui, qui essaient de le faire vivre. Et vous avez cette espèce de truc bizarre où on se demande si c'est la réalité ou la maladie.
Métaphore,
c'est une pièce prodigieuse, c'est un film prodigieux et c'est un auteur prodigieux. Il a à peine 40 ans.
Le père, Florian Zeller.
Voilà.
Merci à vous. Amélie, on vous retrouve bien sûr dans un instant pour En toute franchise.
Tout à fait. Dans un instant, Marine Le Pen sera mon invitée. Émotion immense à nouveau. Aujourd'hui, après la mort d'Éric Masson, il y a l'émotion, il y a le constat. Mais vient aussi le temps des solutions. Quelles sont les solutions de Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle? Et puis nous reviendrons aussi, bien évidemment, sur son face-à-face musclé, c'est rien de le dire, avec Éric Dupond-Moretti dans le Pas-de-Calais. Puis à 19h, notre trio ce soir, Luc Ferry, avec Daniel Cohn-Bendit et Henri Guénaud. Voilà pour notre programme.
À tout de suite, c'est dans un instant, en toute franchise. Philippe de Sertine, merci à vous, c'était passionnant de vous avoir et de parler avec vous, de faire ce tour du monde vu par un économiste, mais qui s'intéresse à bien d'autres choses, donc c'était un bon moment. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve bien sûr dimanche prochain, même heure, même endroit, même projet. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous.